Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du ridicule morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année 2022, que vos comptes en banque se remplissent et que vos fesses grossissent, et surtout que vous puissiez goûter à tout le bonheur du monde. Sur ce, je vous présente l'affaire qui a fait pleurer tous les portefeuilles de France, j'ai nommé l'affaire du gang des postiches. Le gang des postiches est un groupe de braqueurs ayant opéré dans les années 70 et 80, en deux phases donc. Le gang originel est une bande d'amis qui a grandi ensemble dans les zones de Belleville et de Montreuil, donc des zones qui ne font pas de gens, des gens équilibrés, où il fait pas bon grandir, quoi. Dans ce gang originel, on retrouve Sidi Mohamed Badawi, Bruno Berliner, André Belaïch, Patrick Jay et Robert Marguerie. Ce sont des jeunes hommes qui sont tombés tôt dans la délinquance, étonnamment, hein, vu les zones où ils ont grandi, et ont commis des vols à la tire, des escroqueries à la carte bancaire et tout le toutim. En 1975, ils décident de passer au vol à main armée, parce que être criminel, c'est aussi une carrière, et dans une des carrières, bah, il y a des promotions. C'est ainsi que le 27 février 1975, Badawi et deux complices qui n'ont pas formellement été identifiés attaquent la Société Centrale de Banque dans le 11e arrondissement de Paris. Ils abattent Vincent Lopis, 58 ans parce qu'il a déclenché l'alarme, et prennent les autres personnes présentes en otage. Cette prise d'otage dure 10 heures, ce qui est énorme, et Badawi et son complice, dont on suspecte qu'il est Belaïch, arrivent à échapper à la brigade anti-gang au prix de la vie du troisième braqueur, Alain Labacane, qui est abattu. Leur butin, 1 million de francs, soit 716 927 euros d'aujourd'hui. Avec cet argent, Belaïch et Badawi parcourent le monde. Et, en France, ils sont condamnés à mort par coutumasse le 9 juin 1978. Alors, une petite remarque que j'aimerais faire, c'est que la France aimait bien condamner les gens à mort à l'époque, quand même. Hein. On est presque au niveau des États-Unis, là. Bref, la fête se termine le 28 octobre 1980 pour Badawi, parce que, alors qu'il est en train de circuler en moto dans le 16e arrondissement de Paris, des policiers de l'escorte présidentielle lui font signe de s'arrêter. Badawi refuse et tire sur l'un des policiers, avant d'être abattu. Alors là, il l'a un peu cherché parce que quand on est en cavale, en général, on retourne pas dans la ville qui nous recherche. Moi, à sa place, je serais resté, je sais pas moi, au fin fond de la jungle du Vietnam dans une forteresse et puis je serais devenu une légende urbaine. Enfin. Alors le gang qui est endeuillé se jure qu'il n'y aura plus jamais aucun mort dans leur prochain braquage et, spoiler alert, ils ont faux. Le 29 septembre 1981, le gang braque une BNP Paribas dans le 16e arrondissement de Paris et obtient un butin de 11 000 francs, soit 4 227 euros. Le même jour, ils braquent une Société Générale dans le même coin et se font 33 000 francs, soit 12 000 euros 683. Ça vaut à peine le coup, quoi. Le lendemain, ils braquent une banque populaire dans le 19e, mais bon, ça m'étonne pas vu le butin de la veille. Le 6 octobre de la même année, ils braquent de nouveau une banque populaire, mais cette fois, ils arrivent à se faire 300 000 francs, soit 115 305 euros. Là, on arrive à quelque chose qui vaut le risque, quoi. Le même jour, ils braquent la banque Verne dans le 9e. Et le 27 octobre, ils braquent la Société Générale de Saint-Gratien. Niveau mode opératoire, ils utilisent des déguisements, ils sont courtois avec les otages et ils donnent même de l'argent aux personnes qui ont l'air pauvres, ce qui leur vaut l'amour du public, évidemment. Non mais sérieux, imaginez vous vous faites prendre en otage et vous ressortez dans un meilleur état que quand vous êtes rentré. Moi je dirais merci, hein. Donc pour ne pas se faire attraper, ils récupèrent systématiquement les bandes de vidéosurveillance, même si, pour certains braquages, ils oublient de le faire. Mais de toute façon, les enquêteurs qui récupèrent ces vidéos de surveillance, bah ne les utilisent pas pour une raison qui m'échappe. En 1982 et 1983, le gang accueille de nouveaux membres, parce qu'apparemment, plus on est de fous, plus on braque. Donc on a Jean-Claude Michka, Michel Chelaoui, Serge Arnout et Jean-Pierre Lepape. Ça y est, le gang définitif est formé. Le 16 mars 1983, le gang reprend ses activités et braque le Crédit Lyonnais de Neuilly-sur-Seine. Deux jours plus tard, il braque la Banque Nationale de Paris à la Selle Saint-Cloud et vole ainsi 17,6 millions de francs, ce qui fait aujourd'hui 5 518 486 euros. Jésus-Marie-Joseph, oula, c'est beaucoup d'argent, hein. même à plusieurs, c'est beaucoup d'argent. Après ça, le gang fait une pause de quelques mois. Perso, j'aurais pris une pause de quelques années, mais bon, je ne suis pas aussi travailleuse qu'eux, apparemment. Et les affaires reprennent le 17 novembre 1983, quand le gang braque un Crédit du Nord du 8e arrondissement de Paris et rafle 700 000 francs, soit 219 495 euros d'aujourd'hui. C'est conséquent. On commence à avoir un sacré magot, hein, du côté des postiches. Le 3 mars 1984, la bande braque un Crédit Agricole du 14e, puis une Société Générale du 16e arrondissement trois jours plus tard, et deux jours après ce braquage, les braqueurs frappent dans un Crédit Lyonnais à Saint-Mandé et dans une Société Générale dans le 19e. Ouais, clairement, je ne suis pas aussi travailleuse qu'eux. Vous vous doutez bien qu'autant d'oseilles, qu'autant de moulas, autant de pesos qui disparaissent, ça ne passe pas inaperçu. Les braquages sont récupérés à la fois par les médias et par la classe politique, qui, pour une raison encore une fois qui m'échappe, blâme le nouveau président François Mitterrand, parce qu'il est de gauche et des trucs d'anarchistes et blablabla, j'ai rien compris. Donc le 14 mars 1984, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre, les services centraux et territoriaux de la police et de la gendarmerie, ainsi que les représentants des grandes banques, se réunissent place Beauvau pour concocter ce qui deviendra le plan ballon, c'est-à-dire l'installation dans les coffres de capteurs sismiques qui se déclenchent aux secousses des perceuses et des marteaux et qui alertent la brigade de répression du banditisme. Ironiquement, le gang frappe le même jour au Crédit Commercial de France dans le 7e arrondissement. En plus de cet échec critique, le plan ballon provoque beaucoup de fausses alertes et le gang continue de nuire. En effet, le 19 avril 1984, la banque braque la Banque Française pour le Commerce et l'Industrie à Cachan et arrive à voler 600 000 francs, soit 175 161 euros d'aujourd'hui. Le 15 août, il braque un Crédit Agricole dans le 11e arrondissement avant de prendre des vacances. Tu m'étonnes, avec un pactole pareil, je pense que toute ma vie deviendrait des vacances. Bref, le groupe fait sa rentrée le 26 novembre avec le braquage de la banque Hervé à Suresnes. Le 5 décembre, il frappe dans un Crédit Lyonnais à Levallois-Perret. Et le 11, il braque la banque Indosuez, Mer Rouge, dans le 7e. Deux jours plus tard, c'est un Crédit Lyonnais de Neuilly-sur-Seine qui est braqué. Le gang s'arrête le temps de fêter Noël, parce que Noël ça se fête quand même, et reprend du service en braquant une Banque Nationale de Paris à Garches le 9 janvier 1985, puis une Société Générale dans le 16e le 14, où ils arrivent à se faire 3,5 millions de francs, soit 940 598 euros d'aujourd'hui. Le même jour, le gang effectue sans le savoir son dernier braquage, là où leur gloire a commencé, dans le Crédit Lyonnais du 16e arrondissement, où ils arrivent à rafler 727 000 francs, soit 194 838 euros. Vous allez sûrement me dire, mais Elsa, comment ça se fait que c'est leur dernier braquage ? Eh ben, je vais vous expliquer, parce que je suis une femme qui donne, et je vais vous donner l'information. Du coup, alors que le gang est en train de forcer les coffres forts du Crédit Lyonnais, le dispositif ballon se déclenche pour une raison valable, pour une fois, et la banque est rapidement encerclée par des policiers en civil, prêts à prendre les postiches en filature. Malheureusement, ça part en cacahuète parce que le commissaire Raymond Mertz croise le regard de deux membres du gang qui est sorti de la banque. Ah, il a la goutte au front, il est stressé, du coup il agit sous le coup de l'adrénaline, et il sort de la voiture et se met à leur tirer dessus. Évidemment, ça part en fusillade générale. Bruno Berliner, à 28 ans, et l'inspecteur Jean Vrintz, 33 ans, s'entretuent, et Marguerite est arrêtée. Les autres arrivent à s'échapper, notamment en prenant un otage en policier. C'est le plus gros échec de l'affaire. C'est tellement un échec que, au 36 quai des Orfèvres, on réclame le renvoi du commissaire Mertz, et ça part en fronde. La honte, j'aurais été Raymond Mertz, j'aurais démissionné, tout simplement. Après cette véritable débandade, une autre équipe reprend l'enquête et fait beaucoup plus de progrès, notamment en trouvant les plans du gang. C'est là que les arrestations se mettent à pleuvoir. Le 31 janvier 1986, Serge Arnout est arrêté chez lui à Bagnolet. Le 5 août de la même année, Belaïch et Jay sont interceptés par des carabiniers italiens. Jay arrive à s'enfuir, mais Belaïch est attrapé et incarcéré à Rome. Le 23 novembre, Mishka et François Bess, un ancien complice de Mesrine, comme quoi le monde du braquage est petit, volent un hélicoptère de la Croix-Rouge et libèrent Belaïch, qui emmène avec lui son co-détenu, un braqueur d'extrême droite nommé Gianluigi Esposito, parce que plus on est de fou, plus on braque, et puis voilà. Cette bande de joyeux lurons est retrouvée le 13 décembre à hier avec une partie du butin des postiches. Le 4 avril 1996, Marguerite et Mishka sont condamnés à 12 ans ferme. Belaïch prend 8 ans et Jay continue sa cavale. Il sera retrouvé le 13 janvier 2003 dans le 15e, encore une fois, arrêtez de revenir là où vous êtes recherché. Bref, il prend 15 ans, puis 2 ans de plus en appel en 2006. Serge Arnout réussit à être acquitté en fournissant un alibi. Et Jean-Pierre Lepape n'a jamais été jugé, comme quoi, là-dessus, ils ont été les grands gagnants de l'affaire des postiches. Libéré en 1997, Belaïch est un exemple de réinsertion. Aux dernières nouvelles, il a un magasin dans Paris et il n'a jamais commis d'autres délits ou crimes. En 1998, Robert Marguerite est libéré. Il vit depuis en Thaïlande et a été diagnostiqué schizophrène bipolaire. Malgré cela, il a l'air d'arriver à vivre sa vie et est très religieux. En 1999, Mishka est à nouveau condamné pour vol de voiture en 2001 et il se suicidera en 2003 chez sa mère à Aubervilliers. Jay est toujours incarcéré et Serge Arnout, qui a été acquitté, je le rappelle, meurt en 1987 d'une overdose d'héroïne. En ce qui concerne Jean-Pierre Lepape, qui n'avait même pas été jugé, il est abattu dans un café à Vitry-sur-Seine par deux motards. Ainsi se termine l'histoire du gang des postiches, mais pas l'histoire de leur butin, qui sera entre les mains d'ici quelques années d'un certain Michel Fourniret. Alors pour rappel, Fourniret, c'est un tueur en série pédophile qui a sévi dans les années 90 et au début des années 2000 avec sa femme Monique Olivier. Si vous vous demandez où il est 6 pieds sous terre, ce qui me fait extrêmement plaisir. Mais bon, passons à l'histoire du butin. En 1988, Gianluigi Esposito, qui s'était évadé avec Belaïch à Rome, c'est où le gang a enterré une partie de son butin et donne un emplacement à son codétenu Jean-Pierre Elguarche pour qu'il aille récupérer le trésor pour lui. Parce que on peut déléguer ce genre de tâches, apparemment. Encore une fois, être criminel, c'est une carrière. Donc, pour récupérer le magot, Elguarche fait appel à sa compagne Farida Amish, qui elle-même demande de l'aide à un ami du couple, Michel Fourniret. Celui-ci l'accompagne au cimetière de Fontenay en Parisie pour récupérer le magot et se barre avec sa part. Là, tout s'est bien passé. Sauf que, quelques semaines plus tard, il attire Farida dans la forêt de Rambouillet, réussit à lui faire dire où elle a caché, sa partie du butin, il la tue et il récupère le tout. Avec ça, il achète le château de Sautou et finance sa vie de famille tout en commettant ses meurtres. Le corps de Farida n'a malheureusement jamais été retrouvé. Alors je suis désolée de finir l'épisode sur une note aussi triste. J'espère quand même que l'affaire vous a intéressé et que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez un commentaire à me faire ou une suggestion, n'hésitez pas à le faire sur Twitter, @ElsaETC, ou sur le site murderwinecheese.com. Vous pouvez aussi faire un don pour que je m'achète un nouveau micro avec le lien dans la description, pardon. Et vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ou l'endroit où vous écoutez le podcast, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon début d'année, je vous souhaite aussi de trouver un billet de 10 par terre, parce que ça fait toujours plaisir, et salut !